et messieurs, ravi de vous rencontrer pour une nouvelle émission de l'étudiant Time qui vous donne rendez-vous tous les jeudis de semaine paire sur Radio G101.5 FM. Salut Shaima.
Salut Rim, tu vas bien?
Oui, très bien, et toi?
Oui, ça va.
Tu nous as préparé quoi comme sujet aujourd'hui?
Alors moi je vais parler de comment trouver un stage, et toi?
Moi je vais vous parler de la peur du changement ou la peur de sortir de sa zone de confort. Donc on commence avec ton sujet, Shaima.
Oui, c'est parti. Alors, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler des étapes et conseils pour trouver un stage dans le cadre de vos études. Étant donné qu'on est vers la fin de l'année universitaire et que beaucoup d'entre vous ont leur période de stage qui approche, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous aider un peu si vous n'avez aucune idée par où commencer. Donc en premier, je vais parler de la recherche de stage en France et ensuite de la recherche de stage à l'étranger. Tout d'abord, ce qui est primordial, c'est de commencez toutes vos recherches. Avant de commencer toutes vos recherches, il faut connaître sur le bout des doigts les modalités de stage de votre cursus. Par exemple, le nombre de mois ou d'heures à effectuer obligatoirement pour valider votre stage, ou non si c'est un stage facultatif. Dans quel domaine ce lycée doit être, s'il y a des missions spéciales que vous devez effectuer, ou si vous pouvez le faire en télétravail, etc. Connaître toutes ces modalités vous permettra de ne pas perdre de temps et paraître plus sérieux auprès des entreprises. Si vous ne connaissez pas ces informations, vous pouvez vous diriger vers le responsable pédagogique de votre cursus ou la personne chargée des stages. Alors ensuite, pour commencer votre recherche de stage, idéalement, il faut savoir ce que vous aimez et n'aimez pas, et quel type de stage vous serait bénéfique pour votre orientation future. Par exemple, si vous souhaitez travailler dans le marketing digital, un stage dans une entreprise ou dans le pôle marketing et communication d'une entreprise ne vous sera que bénéfique. Si vous avez des doutes sur votre orientation future ou si c'est complètement flou pour vous, donc première étape, faire une recherche des domaines ou missions qui idéalement correspondent à vos aspirations futures. Ensuite, suite à vos recherches, je vous conseille de faire une liste des entreprises qui vous intéressent avec les informations qui sont relatives à ces entreprises, comme la localisation, idéalement si vous trouvez un email de contact ou l'email des chargés de ressources humaines pour pouvoir faciliter vos candidatures et avoir un objectif clair. Troisième étape, bien sûr, c'est le CV. C'est un outil à ne pas négliger car un CV bien construit peut faire la différence. Vous pouvez l'adapter au domaine qui vous intéresse et pourquoi pas, si vous avez une âme créative, faire un CV original avec des outils tels que Canva. De plus, une petite astuce, c'est de mettre des mots-clés présents dans le contenu de l'annonce à laquelle vous postulez dans votre CV. En effet, certaines entreprises procèdent à un triage des candidatures par un algorithme avant de les étudier humainement, enfin les étudier par le chargé de ressources humaines. Ensuite, je vous conseille de rédiger une lettre de motivation type que vous allez modifier selon les entreprises et les candidatures. Faire une lettre de motivation type ne fonctionne que si vous postulez dans les mêmes domaines, car sinon les qualités, les expériences à mettre en avant ne seront pas les mêmes. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de vous faire relire par vos proches ou professeurs ou participer à des activités de rédaction ou relecture de CV et lettres de motivation qui peuvent être organisées par votre université ou établissement d'accueil. De plus, n'hésitez pas à être honnête et sincère dans votre lettre de motivation. Par exemple, ne pas mentir sur ses compétences, mais plutôt dire qu'on est motivé à en apprendre plus. Si vous avez des compétences autres que celles de l'annonce, mais qui pourraient être intéressantes pour l'employeur, vous pouvez aussi en faire part dans la lettre de motivation. Cela montre que vous êtes motivé, mais aussi fort de proposition. Après toutes ces étapes, vous avez fait le plus compliqué. Il ne vous reste plus qu'à candidater aux annonces que vous trouvez dans vos recherches. N'hésitez pas à utiliser divers sites internet, car les annonces varient. Si vous souhaitez faire une candidature spontanée, vous pouvez aussi contacter les entreprises sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra d'avoir une réponse plus rapidement et généralement ça passe très bien. Pour votre organisation, je vous conseille aussi de tenir un fichier Excel avec toutes vos candidatures en y indiquant le lien de l'annonce, la date à laquelle vous avez postulé, pour pouvoir relancer les entreprises au bout de quelques semaines si vous restez sans nouvelles. Donc à présent, je vais aborder rapidement les candidatures de stage à l'étranger. Tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, je vous conseille de vous informer sur les modalités d'entrée et de stage en rapport avec le pays où vous souhaitez partir, plus précisément par rapport en ce moment au Covid-19, à votre université, si elle accepte les stages à l'étranger, dans quel pays. Et aussi, de nombreux pays peuvent vous demander un visa ou un passeport pour pouvoir y entrer, ou encore une quarantaine. Donc il faut vérifier en avance si votre passeport est toujours à jour et si vous êtes éligible à l'entrée dans ce pays. De plus, selon le pays où vous souhaitez postuler, le CV et la lettre de motivation n'ont pas la même forme partout dans le monde. Et donc, il faut bien faire attention à adapter le format au pays visé. Vous pouvez aussi faire appel à des organismes privés qui sont payants, qui vous permettent de trouver un stage dans le domaine de votre choix à l'étranger. Ainsi qu'il faut se renseigner aussi pas mal sur les bourses Erasmus. Si vous faites un stage en Europe, vous pouvez avoir le droit à une bourse mensuelle selon le pays où vous allez. Donc, par exemple, si vous faites appel à des organismes privés de stage qui vous demandent de payer pour trouver un stage, ça peut se rembourser avec la bourse que vous allez avoir. Et pour finir, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous mettre la pression pour une candidature. Ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un retour positif ou négatif. Donc il faut vraiment laisser le temps aux entreprises de vous répondre. C'est pour ça qu'il faut aussi s'y prendre en avance et ne pas tout faire à la dernière minute, car ça va juste engendrer du stress et moins de réponses. Du coup, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et que ça va vous permettre d'aborder plus sereinement vos recherches de stage futurs.
Merci beaucoup, Shaima, pour cette chronique très intéressante et pour les informations que tu nous as proposées et qui sont vraiment parlantes pour moi et je pense même pour les gens qui nous écoutent, surtout les étudiants. Il y a pas mal de points assez intéressants que tu as abordés. Surtout, l'idée, par exemple, il faut que dans son CV ou dans sa lettre de motivation, il faudrait vraiment évoquer ses vraies compétences. Donc l'idée, c'est pas de mentir, mais de savoir mettre en valeur ce qu'on sait faire, notre savoir-faire et notre savoir-être, en fait.
Oui, c'est sûr. Et surtout que même si on n'a pas les compétences forcément recherchées par l'entreprise, si on montre qu'on a la motivation d'apprendre, qu'on est vraiment sérieux et motivé pour en apprendre plus, ça peut aussi faire la différence auprès d'une entreprise plutôt que mentir et du coup après se retrouver en difficulté lors du stage.
Oui, tout à fait. Et il y a également une information importante que tu avais dite et qui m'a servi également, c'est le fait qu'il est important de relancer. Parce que parfois, on a vraiment rapidement tendance à abandonner, alors que c'est pas forcément la meilleure idée. Parce que parfois, les entreprises, quand ils voient que tu les relances, ça prouve que tu es très motivé. Et donc, ça pourrait être une raison pour te recontacter et même te recruter. Donc, il faut pas hésiter.
Oui, c'est ça. Et surtout que nous, on a notre petite vie d'étudiant, mais les entreprises, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est plus rapide, plus agité. Donc, ils ont tendance à pas forcément répondre rapidement ou prendre plus de temps à nous répondre, mais c'est pas pour autant qu'ils vont nous répondre négativement. Donc, il faut pas hésiter à relancer et surtout à être patient. Donc, il faut s'y prendre à l'avance.
Oui, donc merci beaucoup Shaima. Maintenant, on fera une petite pause musicale et après, on reviendra pour vous présenter notre deuxième chronique. Et on vous laisse avec Say Right de Nelly Furtado.
You need to stand. Oh.
Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur l'étudiant Time au 101.5 FM. À présent, c'est Rim qui va nous faire sa chronique sur le sujet du...
Sur la peur du changement ou la peur de sortir de sa zone de confort. Mais avant de commencer, je voulais te demander, Shaima, est-ce que tu as cette peur-là? Est-ce que, en général, t'oses pas sortir de ta zone de confort, essayer des trucs nouveaux?
Pas vraiment. De base, je l'ai pendant longtemps dans ma vie. Enfin, je suis pas très vieille, mais pendant longtemps dans ma vie, j'avais peur de sortir de ma zone de confort. Mais maintenant, j'essaye de me pousser de plus en plus à faire des choses que j'aurais pas faites en temps normal, comme Radio G. mais non, ça va, j'essaye. Je me suis rendu compte que plus on sort de sa zone de confort, plus
on apprend,
on évolue, puis des fois on a des bonnes surprises. Donc c'est vraiment important de se pousser à changer, à être meilleur.
Ok, parfait, tant mieux. Parce que c'est vrai que la peur de sortir de sa zone de confort est une peur assez commune. Et justement, aujourd'hui, on va parler de comment éviter cette peur-là et comment oser aller vers des trucs nouveaux. Parce qu'il faut savoir que malgré l'aisance que nous garantit la zone de confort, celle-ci nous empêche de vivre un niveau de stress et d'anxiété optimal ou optimaux qui sont bénéfiques pour nous éviter la stagnation et nous assurer ou nous permettre de progresser et de nous améliorer de façon continue ainsi que d'apprendre. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer quelques astuces qui vous aideront à éviter ou à ne plus avoir peur du changement. Tout d'abord, il est important d'établir des objectifs quotidiens. Et donc, par exemple, si vous avez un but important, comme ce qu'elle nous a expliqué Shaima tout à l'heure, trouver un stage, il faut répartir son objectif en plusieurs petits objectifs en petites tâches quotidiennes. Comme ça, cela vous permettra de visualiser de façon continue votre progrès afin d'atteindre votre but ultime. Par exemple, on reprend toujours le sujet de Shaima, si votre but est de trouver un stage, les tâches quotidiennes seront de postuler ou candidater à une ou deux entreprises par jour ou par semaine. Cela dépendra bien sûr de votre motivation et de votre temps. Parce qu'il faut savoir que le fait de réaliser cette répartition rend la tâche principale plus facile et vous motive encore plus à aller vers votre objectif, puisque ça vous donne l'impression que ce que vous faites est moins fatigant ou moins compliqué à faire. Et donc, je vous encourage vivement à faire des programmes de travail faisables qui vous encourageront à continuer à travailler et à progresser. Donc, pour créer ce genre de programme, il y a pas mal d'applications et de to-do list en ligne qui peuvent vous aider à économiser le temps et avoir une bonne mise en forme qui augmentera encore plus votre motivation. La deuxième astuce, c'est d'élargir son cercle de connaissances. Donc, l'une des principales choses qu'il faut faire si vous voulez vraiment sortir de votre zone de confort, c'est d'essayer de développer son réseau de connaissances et surtout essayer de passer plus de temps avec des gens motivés qui pourraient vous inspirer et vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Il faut savoir aussi que le fait de communiquer et de socialiser permet à ou nous permet de développer notre personnalité, notre vécu et nous donne plus confiance en nous tant qu'on n'est pas en contact avec une personne toxique bien sûr. La troisième astuce, c'est de visualiser son succès. Ceci signifie le fait d'essayer d'imaginer son chemin ou parcours de réussite Alors oui, parce qu'il est important de considérer par défaut que vous allez réussir, ce qui vous permettra d'avoir plus de motivation et d'augmenter votre volonté mentale. Mais pas que, puisque cet outil vous aidera également à atteindre vos objectifs rien que par cet exercice d'imagination que vous pourriez faire de manière récurrente et qui vous aidera à réfléchir à des scénarios réalistes et donc à éviter par la suite les problèmes potentiels que vous pourriez rencontrer dans la vraie vie. Et d'ailleurs, cet outil-là, il est appliqué parfois par les champions olympiques pour booster leur force et leur volonté. Un dernier conseil, il est important de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que, parce que le fait de se tromper, c'est une occasion pour apprendre de ses erreurs et pour devenir plus mature. Donc j'espère que ces petites astuces vous ont encouragé à essayer de sortir de votre zone de confort, ce qui est vraiment très important, car c'est en sortant de notre zone de confort que nous vivons les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc il y aura toujours des accidents en cours de route, comme on avait dit tout à l'heure, mais nous serons mieux adaptés à naviguer entre-temps.
Merci Rim pour ta chronique. Alors juste déjà pour revenir à la question que tu m'as posée au tout début, est-ce que toi tu oses sortir de ta zone de confort de façon quotidienne,
Pour de vrai, en général j'ai peur de l'échec et cela ça pourrait parfois m'empêcher d'aller vers de nouvelles choses, mais un peu comme toi j'essaie aussi de m'améliorer pour ne pas m'empêcher de vivre et d'essayer de nouvelles aventures, parce que c'est vrai qu'en faisant cela qu'on apprend. Donc disons que je travaille sur ça.
Ouais, c'est bien. En plus, c'est vrai que on a beaucoup peur de l'échec, mais je pense que c'est plus... Il vaut mieux pas regretter d'avoir fait quelque chose plutôt que de se dire qu'on a eu un échec, parce qu'au final, c'est que de l'expérience. Et sur le moment, on s'en rend pas compte, mais avec le temps, on se rend compte que c'est que bénéfique, en fait, pour nous. C'est ce qui nous permet de nous construire aussi, les échecs.
Oui, tout à fait. C'est des expériences de vie, effectivement, qui nous construisent et qui forgent notre personnalité.
Du coup, on vous laisse avec une petite pause musicale avec Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello.
Hard to leave.
mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien aimé la pause musicale. Et maintenant, nous allons faire un petit jeu avec Shayma, un jeu de questions existentielles. Maintenant, vous avez l'habitude de ce jeu-là. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait, Shayma.
Oui, c'est notre jeu culte. On aime beaucoup. En même temps, c'est très en rapport avec les sujets qu'on traite. Donc, surtout toi, Rim. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir dans notre point de vue, en fait, sur les choses.
Et également, ça nous incite à réfléchir et ça incite les gens qui nous écoutent aussi. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à réfléchir avec nous et à jouer avec nous. Tu commences ?
Oui, pas de souci. Alors, du coup, pour commencer, je vais te poser comme question, quels sont les petits détails ou les choses symboliques qui peuvent te définir ?
Ah, j'aime bien cette question. Je dirais beaucoup de choses, comme tu l'as dit, des détails et pas un seul truc. Pour moi, ce serait peut-être le café, parce que je suis fan du café. Le noir, c'est ma couleur préférée. La discrétion, c'est un de mes traits de caractère, je pense. J'aime bien garder des trucs pour moi, des trucs pour ma vie privée. J'aime aussi, je pense qu'il y a pas mal de trucs paradoxaux qui me définissent. Par exemple, j'aime bien le calme et l'ambiance, les sorties et la solitude. Tous ces trucs-là, ces contrastes, tu vois. Et toi, Shayma, c'est quoi ? Qu'est-ce qui crée ta bulle ?
Moi, je vais dire le bubble tea, c'est tout l'inverse du café. si on peut faire des bubble tea avec du café, mais voilà. Les livres, les sushis, bon, il y a beaucoup de nourriture. Me cultiver, l'art, la nature, la musique et les voyages. Et comme toi, tu disais, moi, je pense que je serais plus introvertie. Et ce qui peut me définir aussi, c'est que je suis très souriante. Je souris tout le temps à tout le monde, ce qui peut paraître un peu bizarre. Et je m'en suis rendu compte quand je regardais, je sais pas si tu connais l'émission LOL sur Amazon Prime. En fait, c'est avec des humoristes. En fait, c'est comme une petite télé-réalité avec des humoristes. Okay. Et le but, c'est de ne pas rigoler. Et je me suis rendu compte que je partirais au bout de deux minutes, quoi.
Non, mais c'est bien. J'aime bien les personnes comme toi, Shayma, qui dégagent de l'énergie positive. Donc, c'est bien. Du coup, pour ma part, ma question pour toi, Shayma, c'est d'où vient la peur, à ton avis ?
Alors, pour moi, je pense que la peur, ça vient un peu de... c'est un peu philosophique, mais ça vient de notre subconscient, dans le sens où c'est peut-être des choses qu'on a... Enfin, pas qu'on a déjà vécues, mais qu'on a vécues de loin, ou que des personnes de notre entourage ont vécues, et donc qu'on a peur de vivre. C'est aussi des peurs liées à des échecs. Quand c'est en relation avec ça, on va avoir notre cerveau va développer des peurs par rapport à ça. Après, il y a aussi des peurs qui sont complètement avec des raisons inconnues. Il y a des gens qui ont des phobies qui peuvent être qui paraissent pas normales, mais qui sont vraiment intenses chez les personnes concernées. Enfin bref, les peurs, ça peut venir de un peu partout, et je pense que c'est très ancré dans notre subconscient. En fait, c'est des choses qu'on s'en rend pas compte à première vue, mais tout ce qu'on vit, nos expériences, les événements qui nous arrivent, positifs ou négatifs, ça crée des peurs, des phobies, des angoisses en nous.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Shayma. C'est vrai que la peur, ça pourrait être d'origine intérieure comme ça pourrait être d'origine extérieure. Pour moi, ce qui définit la peur en premier lieu, c'est le fait de ne pas se sentir bien, ne pas être bien dans sa peau, avoir un sentiment d'insécurité interne, avoir un manque de confiance en soi, etc.
Ma prochaine question, c'est comment puis-je avoir du succès ? Enfin, pas moi personnellement, mais...
Tu penses que ça dépend de la perception et de la définition du succès pour chaque personne. Mais pour le sens commun du succès, qui est atteindre des objectifs matériels, la raison ou le facteur principal pour l'atteindre, ce serait surtout de croire en soi et d'être passionné par ce qu'on fait. Je pense que c'est surtout ça ce qui crée la différence et qui pourrait faire qu'on soit brillant et même distingué dans notre domaine. Et donc réussir par la suite.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est surtout, oui, quand on aime vraiment ce qu'on fait et comme tu dis, se distinguer dans ce qu'on fait. Je pense que l'authenticité aussi qui fait que ça donne du succès quand on est original, quand on ne s'inspire pas forcément des autres et qu'on montre que nos véritables compétences, en fait, notre art ou notre compétence selon le domaine.
Alors, ma question pour toi, c'est à ton avis, est-ce qu'on a le droit de mentir ?
Vu que je ne suis pas quelqu'un qui aime le mensonge, je pense que on peut toujours dire la vérité, sauf dans des cas extrêmes, que je ne sais pas quel cas, mais il peut y avoir des cas où on peut où ça peut être justifié de mentir. Mais selon moi, je pense qu'il faut toujours rester vrai et même si c'est compliqué parfois de dire la vérité, il y a des façons aussi d'aborder la vérité quand on veut pas blesser la personne, etc. Il y a des façons de le dire et de s'exprimer pour ne pas mentir, mais ne pas non plus être trop méchant, on va dire. Et toi, Rim ?
Ça dépend vraiment des cas. Alors j'avoue que mentir, c'est quelque chose de gênant pour moi, que ça soit de ma part ou de la part de l'autre personne. Donc si je me rends compte qu'une personne m'a menti, je vais automatiquement perdre confiance en cette personne-là. Mais on reste quand même des humains. Donc je pense, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des cas où on est obligé de mentir pour ne pas blesser la personne qui est devant nous. C'est un peu comme par exemple quand quelqu'un te demande ton avis par rapport à un truc et que tu peux pas, t'as peur de lui blesser ou de lui dire que c'est moche. Ah d'ailleurs, toi, chez moi, par exemple, si une amie te dit, par rapport à un truc, à sa robe ou sa tenue, un truc comme ça, c'est les belles et que toi, tu trouves que c'est moche. Est-ce que tu vas lui dire que c'est moche ou pas ?
Non, enfin, comme je l'ai dit, il y a des façons de dire la vérité. Tu peux très bien dire. Après, je pense que c'est les goûts de chacun. Si une personne a choisi une robe qui lui plaît, surtout en termes de goût vestimentaire, de goût physique, les gens peuvent vite être vexés. Donc je pense que bah là, c'est une bonne raison de mentir, parce que c'est pas un gros mensonge, à part si la personne est complètement ridicule. Donc là, oui, il faut lui dire. Mais si la personne est jolie, c'est juste que c'est pas à mon goût, ça reste subjectif. Donc soit je lui dirais que c'est pas mon style, mais que ça lui va bien, soit je lui dis que ça me plaît et que ça lui va bien. Parce que dans tous les cas, après, la personne peut être vexée et penser que ses goûts ne sont pas normaux, entre guillemets, alors que ça reste quelque chose de subjectif quand même.
Ok, intéressant. Bah, pour de vrai, je pense que tu as raison. Alors, moi aussi, par exemple, je dirais que c'est pas beau si c'est vraiment un truc qui ne va pas du tout. Et surtout, ça dépend du moment. Par exemple, si elle n'a plus le temps de se changer, donc je pense que mon conseil n'a plus une grande utilité. Donc je lui dirais, ça va, tu vois.
Ça va juste engendrer du stress.
Oui.
C'est vrai que ça, c'est sadique quand même. Du coup, moi, ma question, Rim, c'est comment trouver la paix ?
Ok. C'est compliqué pour de vrai, parce que ça dépend des personnes et ça dépend de ce qui définit la paix pour chacun.
Ouais, c'est ça, en fait. Selon toi, déjà, qu'est-ce que la paix ? Même si c'est très, très, très subjectif, mais oui. Qu'est-ce que la paix pour toi ?
La paix pour moi, c'est de se sentir ou d'être bien dans sa peau, d'avoir assez de sécurité et de stabilité interne, dont j'avais parlé tout à l'heure, mais parce que justement, je pense que c'est assez intéressant, tu vois. Mais j'avoue que ça pourrait être également relié à des facteurs extérieurs. Par exemple, le fait que la paix pour toi, c'est que tes parents ou ta famille soient en bonne santé, soient bien tout le temps. ou par exemple que tu sois à l'aise dans ta vie, stable matériellement.
Oui, parce que en soi, c'est un peu cliché et les gens n'aiment pas parler d'argent, surtout en France. Mais oui. Selon moi, je pense que l'argent contribue quand même un minimum au bonheur.
Ok, donc merci beaucoup à toi, Shaima, pour tes réponses sages et philosophiques. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez passé de bons moments avec nous. Donc si vous avez raté l'émission ou si vous avez raté le début, n'hésitez pas à l'écouter ou écouter le podcast en entier sur le site de Radio G, radio-g.fr ou sur Spotify.
Radio G 101.5 FM.